Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Et si les questions politiques étaient aussi des questions de génération, notre invité jusqu'à 13h est le Benjamin du gouvernement, plus jeune ministre de la 5e République. Il fait partie des fidèles d'Emmanuel Macron et il est en charge d'un grand projet qui était une promesse de campagne, le service national universel. C'est sa génération qui se mobilise aujourd'hui contre le réchauffement climatique et qui bouscule les politiques dans le monde entier. Mais que reste-t-il des idéaux de sa jeunesse quand on devient ministre de la République et qu'on est sans cesse confronté aux principes de réalité? Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, s'est installé dans le studio de questions politiques. Vos questions, vos remarques, vos commentaires sur l'appli France Inter ou sur les réseaux avec le hashtag #QuestionPol.
France Inter, questions politiques, Ali Badou.
Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Et bienvenue, c'est la journée sans voiture à Paris, vous êtes venu à pied.
Oui.
Même si vous êtes ministre.
Je suis venu d'abord en voiture puisque je n'habite pas à Paris, j'habite en banlieue, donc j'ai déjà rallié Paris en voiture et puis j'ai terminé à pied.
Et comme l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions, venue à pied, elle aussi. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Elle est venue à vélo, Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Toujours à vélo.
Toujours à vélo, Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Bonjour tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, Gabriel Attal. Nous le découvrirons dans un instant. Beaucoup de questions à vous poser, notamment sur la mobilisation de la jeunesse et de la jeunesse à travers le monde, de Kaboul à New York, de Londres à Paris. Et justement, parlons de ce qui s'est passé hier à Paris. Que retenez-vous de la journée d'hier? Mobilisation mondiale pour le climat, mais des heures avec les forces de l'ordre, de nombreuses interpellations, des gilets jaunes qui ont rejoint la manif, le jaune, le vert, on parle aussi de présence de Black Bloc. Il y a 6 mois, vous étiez mobilisé aux côtés des jeunes qui défilaient parmi les premières fois pour alerter contre l'accélération du réchauffement climatique. Hier, qu'est-ce qui dominait selon vous, Gabriel Attal?
Ce qui a dominé hier, c'est que des Black Blocs, des violents, ont pourri finalement l'ambiance et pourri la manifestation pour le climat qui avait été organisée, qui était une manifestation pour qu'on change de modèle de production, de consommation, pour qu'on soit moins énergivore, pour qu'on préserve l'environnement et la planète. Et évidemment, moi, je le regrette. Je pense que le pire a été évité en termes de sécurité, d'ordre public. Il y a eu un certain nombre d'interpellations, vous l'avez dit, je crois un peu plus de 150.
Parle de 163, mais justement, voilà. Puisque vous avez prononcé l'expression d'ordre public, pour faire régner l'ordre public, faut-il vraiment recourir à ces méthodes d'interpellation qui font débat? Et on en a vu encore une fois des vidéos, des scènes dures, des scènes de violence en plein cœur de la capitale.
Alors moi, je n'ai absolument aucun doute sur la question. Évidemment qu'il faut y recourir.
Évidemment.
On a vu des images qui ont été diffusées par la préfecture de police sur des armes par destination qui ont été trouvées à l'occasion de ces interpellations et de ces contrôles. Des gens qui viennent avec des battes de baseball, avec des boules de pétanque, avec des mortiers cachés dans d'autres éléments pour pouvoir pourrir les manifestations. Donc évidemment qu'il faut empêcher ça. On a vu hier qu'il y a un certain nombre d'organisations, Greenpeace, qui à la fin ont même dû demander à leurs militants, demander aux personnes qui étaient venues manifester pour le climat,
de quitter la manifestation.
On peut pas accepter d'en arriver à ces situations. Donc oui, il faut de l'ordre public pour, encore une fois, préserver le droit de manifester, pour empêcher que les Français soient empêchés quand ils veulent aller manifester pour une cause.
Françoise Fressoz.
Mais quelle conclusion vous en tirez sur le climat social et politique qui règne aujourd'hui dans le pays?
Mais alors moi, je distingue deux choses. D'abord, le climat social que vous évoquez. On a vu le mouvement des Gilets jaunes, des colères qui se sont exprimées dans le pays, qui pour certaines dataient de plusieurs dizaines d'années.
Et qui continue.
Il y a encore des mobilisations d'inquiétude, des critiques. On le voit à l'hôpital, on le voit dans un certain nombre de secteurs. Et après, il y a la question de l'ordre public avec des violents, des Black Blocs. Là, je parle pas de climat social. Là, c'est une question sécuritaire qui viennent pour pourrir l'ambiance et pour casser,
mais
pour saccager.
45e samedi, est-ce que ça vous surprend que le mouvement des Gilets jaunes soit toujours là, Gabriel Attal? Vous ne pensiez pas avoir tourné la page?
Encore une fois, moi je distingue deux choses. On parle d'acte 45 et effectivement de personnes qui se disent Gilets jaunes, qui continuent à se mobiliser chaque samedi. On voit que dans l'ampleur et dans le nombre de manifestants, on est quand même très 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 loin de ce qui s'est exprimé en France il y a maintenant un an, puisqu'on va bientôt, ça fera bientôt un an que le mouvement a été lancé. Et puis ensuite, il y a les colères, les inquiétudes, les doutes. On y répond progressivement. Évidemment qu'on n'a pas transformé l'état du pays, qu'on n'a pas refermé le couvercle d'une cocotte minute qui bouillait depuis 20 ans, qui a explosé il y a un an. Mais on y travaille.
Est-ce que finalement vous êtes pas un petit peu tétanisé par le mouvement des Gilets jaunes? On a vu dans l'interview du chef de l'État au Time qu'il disait qu'il avait beaucoup appris des Gilets jaunes, comme si ça avait été une bénédiction pour la France d'avoir eu ce mouvement. On parle de l'acte 45. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de complaisance quand on voit le nombre de gens qui manifestent en disant maintenant on vous a répondu, ça suffit, circulez.
Non, mais encore, Gabriel Attal.
Encore une fois, moi je distingue les deux choses. Il y a un mouvement inédit, historique, qui s'est exprimé il y a un an. On a pris du temps, on a mis du temps à en tenir compte, on a mis du temps à y répondre. C'est vrai, on a traîné. Mais il y a eu une prise de conscience, et moi je pense, comme l'a dit le président de la République, que ça peut être une chance pour le pays. Parce que ça a modifié, on le voit aujourd'hui.
C'est une drôle de manière de présenter les choses quand on est au gouvernement ou à la présidence
mais
de la République.
Écoutez, on peut aussi avoir un peu d'humilité et considérer qu'on s'est planté sur un certain nombre de choses et qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait gouverner différemment, qu'il fallait le faire en associant les Français. On a lancé le grand débat. Tout le monde nous a expliqué, mais les Français veulent pas participer, personne viendra à votre truc, etc. Ça a été un succès. Aujourd'hui, on l'a intégré dans notre manière de porter des politiques publiques sur les retraites.
Revenons à la journée d'hier.
Mais surtout, on a appris cette semaine que Emmanuel Macron contrôlait, surveillait à travers une application ses ministres. Ça donne quelle idée, en fait, de ce qui se passe en ce moment au gouvernement? Quelle atmosphère règne? Ça donne le sentiment d'une extrême fébrilité de la part du président.
Non,
est-ce qu'il va bien, le président? Est-ce que la tension sociale est pas trop forte pour lui?
Non, mais le président va bien. Il suit de très près ce qui se passe dans le pays. Il est très concerné par ce qui se passe. Il nous demande d'être efficace. Il nous demande d'être efficace. Et c'est normal que le président de la République, qui fixe des objectifs, contrôle la manière dont on y arrive. Mais quand on dit fliquer ses ministres, on a l'impression qu'ils regardent sur une application à quelle heure on va déjeuner ou à quelle heure on va se coucher.
Mais là, vous passez pour des mineurs qui êtes sous tutelle du président. Est-ce que vous êtes responsable ou pas?
Non, on a un président de la République qui contrôle la manière dont on agit et qui veut être sûr qu'on atteigne les objectifs qu'il nous a donnés. Et moi, je trouve ça simple.
Surveiller et punir.
Non.
C'est ce qui vous attend.
Il y a beaucoup de milieux professionnels aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises où il y a des objectifs qui sont assignés aux collaborateurs, aux personnes qui travaillent. Et on regarde la manière dont ils sont atteints. Ça me paraît totalement normal et même sain, si vous voulez. Donc, je vous confirme.
Donc, il n'y a pas de fébrilité.
Il n'y a pas de fébrilité. Évidemment qu'on est concerné par ce qui se passe. On se déplace. Moi, je fais 2 ou 3 déplacements en province par semaine. Donc, on voit bien qu'il y a encore des colères, qu'il y a encore des inquiétudes.
Alors, justement,
et le président
que vous ressentez
le voit aussi.
Qu'est-ce qu'ils vous disent en province?
Ils considèrent que il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes qui a relayé des préoccupations qui sont les leurs. On se souvient à l'époque des sondages d'opinion, il y avait beaucoup de soutien à ce mouvement parce qu'il a aussi été le catalyseur à de revendications sur notamment les questions de pouvoir d'achat et de valorisation
et
du travail.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous demande?
Moi, ce que je constate quand je me déplace, c'est que je rencontre de plus en plus de Français qui perçoivent dans leur quotidien les mesures qu'on a prises à la suite du mouvement des Gilets jaunes. On a doublé le nombre de Français qui bénéficient de la prime d'activité, c'est 100 euros en plus par mois. On a la défiscalisation des heures supplémentaires, en moyenne les Français font 11 heures supplémentaires par mois. Ils voient la différence là aussi en termes de pouvoir d'achat. Les Français vont bientôt recevoir l'avis sur la taxe d'habitation.
Donc vous diriez que c'est plus apaisé qu'il y a 6 mois ou qu'il y a encore de très fortes
Ce que je dis, c'est que je rencontre de plus en plus de Français qui confirme qu'il voit ces mesures, mais qu'il y a encore beaucoup d'attentes. Voilà.
Que, évidemment, on n'a pas réglé les problèmes. Ça veut dire que c'est irrationnel. Et que de toute façon, chaque fois que vous trouverez une solution pour recouvrer les pensions alimentaires, il y aura quelque chose d'autre. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans ce mouvement? Une espèce de mécontentement global et gazeux qui fait que quoi que vous fassiez, la réponse sera jamais à la hauteur.
Moi, je dirais pas ça. Je dirais que ça a été un mécontentement sur des problématiques très globales et sur beaucoup de sujets. Et il y a eu les mesures d'urgence sur le pouvoir d'achat et la valorisation du travail. Je viens d'en parler. Elles vont se poursuivre parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver dans les mois qui viennent. Je rappelle que l'impôt sur le revenu va baisser à partir du 1er janvier pour énormément de Français sur la première tranche, que ça va se voir tout de suite puisque ça sera sur le bulletin de salaire avec le prélèvement à la source. Donc tout ça, ça continue. Et puis, il y a des propos qui ont été relayés, il y a des mécontentements qui ont été relayés sur l'abandon d'un certain nombre de territoires, sur le fait que il y a des territoires qui ont vu depuis 10, 20, 30 ans les services publics disparaître les uns après les autres, et ça, par définition, on peut pas y répondre en 15 jours, ni en 6 mois, ni même peut-être en un an. Le tout, c'est d'enclencher une dynamique. Le Premier ministre a annoncé des mesures sur la ruralité hier au congrès de l'Association des maires ruraux. Moi, je suis en charge de la jeunesse, il y a des mesures très fortes, notamment pour la jeunesse rurale. Je travaille beaucoup sur ce sujet. sujet-là.
On va en parler de la jeunesse tout à l'heure.
Voilà, et donc ça, on y répond, et forcément, ça prend plus de temps. Et c'est pour ça que c'est important d'être sur le terrain. C'est pour ça que c'est important d'entendre ce que les Français nous disent, et d'y répondre, et de dire ce qu'on fait.
Le sommet sur le climat va démarrer aux Nations Unies à New York. 193 dirigeants du monde entier vont s'y retrouver avec la mobilisation qui donc a eu lieu un peu partout dans le monde. Quand vous regardez la manière dont ça se passe, il y a maintenant 6 mois exactement, c'était le 15 mars, vous étiez dans la rue, vous étiez aux côtés des étudiants, vous aviez tweeté, je vous cite, et 1 et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. On sait aujourd'hui que les risques de l'accélération du réchauffement climatique peuvent aller bien au-delà de 3 degrés. Quelle est votre intime conviction à vous personnellement? Est-ce que vous pensez, comme beaucoup, que le monde va vers sa fin? Est-ce que vous pensez que notre horizon est en train d'être bouché par le risque imminent de la catastrophe, ou est-ce qu'on peut encore en sortir ? Gabriel Attal.
Moi, je me sens évidemment très concerné par ces enjeux-là, et je me sens très concerné par les mouvements qui sont ceux de ma génération. C'est pour ça que j'avais voulu aller à cette manifestation en mars dernier. Parce que cette génération, c'est sans doute, peut-être, la première qui va mesurer les effets du changement climatique à l'échelle de sa vie. Qui va mesurer le changement, l'augmentation de la température, l'augmentation du niveau des mers, etc. Et puis la dégradation concrète au quotidien, avec les canicules, les sécheresses, dans son quotidien.
Ça, c'est donc le constat, mais est-ce que vous l'écoutez, en fait?
Mais bien sûr que je l'écoute. Et quand vous dites, est-ce que je pense que le monde va courir à sa perte, moi, je fais attention aussi à pas avoir des discours et à pas considérer que c'est la fin. Parce que si on considère que c'est la fin, ça sert plus à rien d'agir. Si on considère que le monde c'est terminé, que le monde va s'écrouler.
Il faut changer radicalement de modèle et de toute urgence.
Mais il faut changer radicalement de modèle. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et moi, c'est ma conviction. Et je vais vous dire, moi, ce qui me frustre terriblement, c'est que je vois qu'on fait beaucoup de choses. Je vois qu'Emmanuel Macron porte beaucoup de choses, notamment à l'international. Quand je me déplace, ça m'arrive d'avoir des déplacements à l'étranger. J'étais notamment au Forum de la jeunesse à l'ONU, qui abordait les questions de climat. Il y avait des militants, des activistes du climat qui venaient de tous les pays du monde. Les gens venaient me voir en me disant bravo pour ce que vous faites en France. L'université Yale, il y a quelques mois, a dit que la France était, je crois, le deuxième pays au monde à porter les politiques environnementales les plus ambitieuses. Et ce
et
que je constate...
Vous avez écouté les slogans dans la rue hier. Oui, c'est pas ce qui domine dans les manifestations et dire, chez les jeunes qui...
Et vous ne pouvez pas dire que c'est un changement radical de modèle. Mais ce que je vais vous dire, enfin,
c'est normal que certains, et des militants notamment, et même les jeunes qui ne sont pas militants mais qui sont préoccupés, nous pousse le plus loin possible. C'est comme ça qu'on avance. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, moi, de Bernanos, je l'ai répétée à plusieurs reprises, c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. Oui, on a besoin d'avoir des militants, des jeunes qui se bougent et qui nous poussent à aller le plus loin possible. Parce que sinon, souvent, on voit que quand il n'y a pas de mobilisation, les gouvernements ne se bougent pas. Il y a eu un virage écologique très fort depuis quelques mois. Et moi, je pense, j'ai la conviction, le président a eu l'occasion de le dire,
quelques mois.
Oui, qu'on le doit notamment à la mobilisation des jeunes. Les mesures qui ont été annoncées depuis plusieurs mois, la loi sur l'économie circulaire qui va être présentée, la convention citoyenne pour changer concrètement, parce que c'est de ça qu'on parle, changer concrètement la manière dont on consomme, dont on...
Mais d'un point de vue très personnel, vous êtes des deux côtés, et ce sont deux côtés qui se font face. Vous êtes à la fois de la génération de ceux qui se mobilisent, de ceux qui pensent que c'est sans doute le problème majeur aujourd'hui qu'il faut affronter, et de l'autre, vous êtes dans un gouvernement, comme je le disais, soumis au principe de réalité, avec les limites de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, surtout, et qui s'impose.
Mais enfin, moi, je me
ça vous la ressentez cette contradiction.
Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un côté contre un autre. Alors là, moi, franchement, j'ai des copains qui étaient à la manifestation vendredi. Je peux vous dire que les slogans, c'était des slogans pour la protection du climat, pour la protection de la planète. Évidemment, il y a des militants politiques qui peut-être ont lancé des slogans anti-gouvernement, mais c'était pas toujours suivi par tout le monde.
C'est des slogans qui ont tendance à durcir. Jeunesse, lève-toi. Nous allons faire usage de la force, comme s'il y avait une impatience en disant bon, il nous parle, et puis rien ne se fait. Est-ce qu'à un moment vous craignez d'être débordé au fond par ces mouvements de jeunes qui disent mais vous ne faites pas suffisamment et pas suffisamment vite?
Moi je pense que depuis quelques mois et ce virage écologique que j'assume, parce que c'est vrai que on n'a peut-être pas été suffisamment ambitieux au départ, en tout cas qu'on n'a pas dit suffisamment où est-ce qu'on voulait aller, qu'on n'a pas donné suffisamment d'objectifs, qu'on ne s'est pas donné les moyens d'être efficace aussi. C'est bien de voter des lois, d'annoncer des choses, il faut s'assurer ensuite que ça soit décliné concrètement et que ça change sur le terrain. Moi je crois profondément qu'on peut réconcilier tout le monde autour de ça. J'y crois. Et d'ailleurs, vous savez, les jeunes, moi je discute beaucoup avec eux par définition, je suis en charge de la jeunesse et par ailleurs je ne suis pas hors du monde, hein. J'ai des amis, de la famille avec qui je discute. Il parle de la question du réchauffement climatique, mais il parle de beaucoup d'autres questions aussi. Et c'est à celle-là aussi qu'il faut répondre. Qu'est-ce qui va se passer là à l'automne? On a le projet de loi sur l'économie circulaire qui est porté par Brune Poirson, qui va lutter contre le gaspillage, contre l'utilisation du plastique, avec le rétablissement, dans certains cas, des consignes, avec la lutte contre la destruction des invendus. Ça, c'est des enjeux très concrets dont vous parlent les jeunes. Il y a la question du bien-être animal, où là aussi
oui,
les jeunes...
Avec le lobbying des chasseurs, là, franchement, le bien-être animal et la protection des espèces, vous êtes quand même pas en flèche sur ce genre de choses. Hein.
Rendez-vous dans quelques semaines, puisque à la fois Elisabeth Borne et Didier Guillaume vont présenter des mesures très fortes sur cette question-là qui, moi, me tient très à cœur. Je m'étais mobilisé sur ce sujet-là quand j'étais député dans la loi agriculture-alimentation. Tous ces enjeux qui, finalement, ont trait à nos modes de consommation, nos modes de production, qu'est-ce que ça entraîne ensuite pour l'environnement et pour la planète. J'étais hier à Trappes. Il y avait un Clean Challenge, parce que c'était le World Clean Up Day. J'étais avec la députée Nadia
Hay. En bon français.
Nettoyons le monde.
Nadia Hay. Oui, il y a plusieurs termes qui ont été utilisés, fébriétacité, nettoyons le monde, etc. En l'occurrence, on a des habitants de Trappes qui se sont retrouvés, qui ont mis des gants et qui se sont dit on va aller nettoyer notre quartier, on va aller ramasser le plastique. C'était à la fois bon pour le quartier, mais aussi ça a créé du lien entre des habitants qui vivent dans le même quartier autour d'un projet.
Ça existe depuis 10 ans, pardonnez-moi. Enfin, ça fait très longtemps qu'on organise des petites journées où on ramasse, effectivement, on nettoie sa ville et puis le lendemain, on recommence dans ses bonnes pratiques.
Non, ce que je veux dire, c'est que là, on constate une accélération de ces événements et moi, je les soutiens totalement parce qu'au-delà de l'effet direct du fait qu'on ramasse des bouteilles en plastique et des canettes qui traînent, ça a aussi un impact sur la société. Hier, qui l'ai fait avec des habitants de Trappes, il y a des gens qui passaient, qui nous regardaient, certains qui nous rejoignaient, d'autres qui disaient à leurs enfants, tu vois, il y a des personnes qui ramassent, il ne faut pas jeter.
Mais on n'est pas dans le changement de modèle, là, encore. Hein.
On est dans le changement de nos habitudes, en tout cas.
Oui, mais il y a des contradictions, malgré tout, même si vous ne voulez pas les reconnaître, puisque d'un côté, il y a effectivement la prise en compte de l'urgence climatique, et puis il y a, par exemple, mercredi dernier, ce conseil des prélèvements obligatoires, CPO, qui dépend de la Cour des comptes, qui propose d'élargir la taxe carbone, dont la hausse a été l'un des détonateurs de la crise des gilets jaunes. Il propose de changer la fiscalité environnementale, plus de taxes. Ça, c'est impensable.
Vous savez, déjà, vous avez cité le nom, Conseil des prélèvements obligatoires. Donc leur travail, c'est quand même de proposer des prélèvements obligatoires. Enfin, d'harmoniser aussi, je veux pas jeter la pierre, etc. Mais c'est pas, ils ont pas comme mission nous pousser à adopter une fiscalité spécifiquement environnementale. Oui, il faut sans doute réfléchir à des évolutions de la fiscalité.
D'élargir les écotaxes à toutes les énergies fossiles.
Mais attendez, qu'est-ce qu'on a entendu avec le mouvement des Gilets jaunes? Le sentiment qui était porté par beaucoup de Français, qu'on leur demandait des efforts à eux et à eux seuls. Et que eux devaient contribuer pour leur voiture, mais qu'ailleurs, il y avait une espèce de cloche au-dessus de tous les autres secteurs qui polluent et qu'on leur demandait rien. Donc qu'est-ce qu'on a fait depuis? On a gelé cette augmentation de la taxe carbone. Il n'y aura pas d'augmentation de la taxe carbone. On a mis à contribution l'aérien, parce que c'était une demande très forte. Vous taxez nos voitures, mais pourquoi vous taxez pas les avions? En tout cas, plus fortement. Éco-contribution sur l'aérien. Et on va continuer. Et comment on va le faire? C'est là aussi, pour moi, c'est un des héritages des Gilets jaunes et du grand débat, et c'est pour ça que c'est positif. Mmh. On met en place une convention citoyenne, avec des Français tirés au sort.
Ça prend du temps, ça, hein?
Bien sûr que ça prend du temps,
oui,
c'est tout nouveau.
Normalement, elle était un petit peu en retard.
C'est tout nouveau, c'est normal. C'est-à-dire, c'est un changement de pratique politique. Ça s'est pas fait avant de tirer des Français au sort pour, avec eux, définir la manière dont on va agir. Et donc, oui, il va y avoir cette convention citoyenne, 150 Français tirés au sort qui vont se réunir dans les mois qui viennent et qui vont proposer des évolutions de notre cadre autour de la transition énergétique de l'environnement, qui soit très concret pour les Français.
La patate chaude, c'est pour le peuple, en fait. C'est ça?
Non, c'est pas ça. C'est que si on veut aller loin et si on veut avancer, faut le faire avec le peuple et pas uniquement pour le peuple.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, est l'invité de Questions politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Votre portrait, c'est la tradition, Gabriel Attal. Portrait signé Karine Bécard.
Vous avez une caractéristique, Gabriel Attal. Vous avez été le plus jeune ministre nommé sous la Ve République. Vous êtes entré au gouvernement il y a bientôt un an, à l'âge de 29 ans seulement. Et avant cela, déjà, vous aviez été le plus jeune conseiller au sein d'un cabinet ministériel. Autrement dit, à bien vous observer, votre jeunesse cache mal une assez longue carrière entamée il n'y a pas moins de 13 ans. Oui, parce que vous n'en aviez que 17 quand vous vous êtes décidé à frapper à la porte du PS. À 22, vous devenez d'abord le conseiller parlementaire, puis le conseiller technique et enfin le conseiller politique de l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine. Comme vous, une ex-strauss-kahnienne. Sans oublier, à 25 ans, votre première élection, vous êtes élu conseiller municipal d'opposition à Vanves, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne. Et puis le socialiste s'est transformé en macroniste pour devenir député.
Et je veux en profiter pour saluer les 700 000 bacheliers qui ont reçu ce matin leurs résultats. Remercier aussi leurs enseignants pour leur engagement tout au long de l'année.
Toute première intervention à l'Assemblée. La plupart de vos collègues de la majorité sont à ce moment-là terrifiés à l'idée de devoir publiquement s'exprimer, alors que vous, Gabriel Attal, le verbe est affûté, vous êtes tout de suite capable d'improviser. C'est vrai qu'au milieu de tous ces novices en politique, vous ne pouviez finalement que facilement émerger. Surtout que vous n'avez jamais eu peur, par ailleurs, de ferrailler. Au contraire, vous aviez vu faire tous les anciens parlementaires, donc vous saviez et vous avez osé. Résultat, quand il a fallu, par exemple, monter au front en pleine affaire Benalla, vous avez été l'un de ceux, et ils n'étaient pas si nombreux, à être allés défendre le président Macron. Et ça, c'était 3 mois avant votre nomination. La preuve, manifestement, qu'il n'y a guère de changement pour réussir en politique. Mieux vaut la pratiquer depuis longtemps et à peu près comme avant.
Réaction, Gabriel Attal ?
Oui, c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui avaient une expérience politique avant d'être élu député. Effectivement, j'étais conseiller municipal dans ma commune à Vanves, où je suis toujours conseiller municipal, où je vis toujours. Et je suis très heureux de l'avoir été, de le rester, parce que le fait d'être élu dans une commune de 28 000 habitants, en l'occurrence, c'est aussi ce qui vous permet d'être en prise avec un certain nombre de choses, de mesurer un certain nombre de choses. Oui, j'avais une expérience...
Vous avez d'abord été conseiller
dans
avant
un
d'être
cabinet,
élu. Hein.
Ouais, j'avais une expérience dans un cabinet auprès de Marisol Touraine, qui m'a énormément appris. Et c'est aujourd'hui, effectivement, utile pour moi, parce que ça m'a appris beaucoup de choses.
Vous êtes malgré tout une exception, puisque rares sont les jeunes qui s'engagent, comme vous l'avez fait à votre âge, en politique, de manière militante, en étant encarté dans un parti, en essayant de faire carrière.
C'est le parcours
carrière.
Classique, en fait.
Je sais pas si c'est classique. En tout cas, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, chez les jeunes, ça l'est pas. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les jeunes s'engagent davantage en politique. Et je vais beaucoup me mobiliser dans les mois qui viennent pour pousser des jeunes à être sur les listes aux élections
municipales.
Vous comprenez
pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas ou peu à la politique, très peu?
Oui, je pense que je sais pas si on peut dire qu'ils s'intéressent pas à la politique.
Ils votent très peu.
Parce que parfois on donne le sentiment que les jeunes sont désintéressés de ce qui se passe, qu'ils sont totalement désengagés, il y a une espèce de
non, mais l'acte
de caricature du jeune qui est avec sa bouteille de
yop
devant son jeu vidéo.
Il ne vote pas.
On a beaucoup dit avant les élections européennes qu'il y aurait même pas 20% des jeunes qui voteraient, c'était des sondages
là.
Et des études. Au final, il y en a quand même beaucoup qui sont allés voter beaucoup plus que ce qu'on attendait, je crois que c'est quasiment la moitié. Alors, c'est jamais assez évidemment, mais on a vu qu'il y a eu ce sursaut. Pourquoi ? Parce que dans les élections européennes, il y a un débat qui est venu très fortement, qui est celui de l'environnement. Et qu'ils ont parfaitement compris que c'est aussi à cette élection-là que ça se jouait. C'est pour ça que moi je dis pas qu'ils sont désintéressés de la politique. Je pense que c'est le rôle des formations politiques, des mouvements politiques, d'arriver à incarner ce qu'ils font en grand combat, en grande cause, pour donner envie aux jeunes de se mobiliser.
Nathalie Saint-Cricq, Karine, rappelez votre parcours, votre trajectoire qui a démarré à gauche au Parti Socialiste pendant des années avant de rejoindre Emmanuel Macron. Et parmi les débats ouverts en cette rentrée par le président de la République, il y a notamment la question de l'immigration. Le président qui demandait en début de semaine aux députés de La République En Marche, je le cite, de regarder la question migratoire en face. Le Parlement doit débattre de la politique d'immigration dans quelques jours. Débat sans vote, débat piégé, c'était le titre d'un édito du Monde cette semaine.
Pourquoi piéger ? C'est jamais piégeux de rentrer dans un débat. Moi, je pense que c'est important de dire les choses et d'avoir un discours de vérité, en tout cas, de poser tout sur la table. Vous savez, l'immigration...
Vous avez le sentiment qu'on n'en parle pas assez ?
En tout cas, j'ai le sentiment qu'on en parle mal. L'immigration, depuis des années, c'était devenu un espèce de totem pour l'extrême droite et un tabou pour les progressistes. Et nous, on veut changer ça. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas parler de l'immigration parce qu'on est progressiste.
Mais vous, l'ancien socialiste, j'en parlais dans mon portrait, vous, l'ancien socialiste, vous n'êtes pas un peu mal à l'aise, voire choqué par les propos d'Emmanuel Macron ?
Mais pourquoi je serais choqué ? Je veux dire, moi, vous avez dit, j'étais au Parti socialiste. J'ai vu, y compris sous le quinquennat de François Hollande, c'est sûr qu'on n'en parlait pas beaucoup. Mais est-ce que ça a réglé la situation ? Est-ce qu'il y a moins de personnes qui ont erré en France sans solution, sans qu'on leur donne soit de parcours d'intégration, soit qu'on leur dise clairement qu'ils n'avaient pas vocation à rester en
mais
France ? Est-ce qu'on peut se satisfaire de cette situation ?
Il y a un an, Gabriel Attal, vous votiez la loi Collomb sur l'asile et l'immigration.
Oui.
La question de l'immigration était déjà posée devant la représentation nationale. Vous en avez débattu, ça a fait débat au sein même de votre propre camp.
Ouais.
On ne découvre pas le sujet aujourd'hui.
Je vous remercie de le dire. Certains disent aujourd'hui, vous découvrez le sujet. Non, en fait, on a voté une loi.
J'ai envie de vous dire quel
an.
Est le bilan de votre loi asile et immigration si vous vous sentez obligé d'en parler aussi.
Mais c'est
vite.
Pour ça qu'on va faire un débat pour tout poser sur la table. Vous l'avez dit, ça fait un an qu'elle a été votée. Et cette loi, elle fixait quoi ? Elle fixait l'idée de dire Il faut que les personnes qui ont vocation à être intégrées en France parce qu'on leur donne l'asile, elles soient intégrées pleinement et totalement. Mmh. Et il faut que les personnes qui n'ont pas vocation à rester en France parce qu'elles sont déboutées du droit d'asile, elles soient reconduites pleinement et rapidement. C'est ça qu'on a voté. Et un an plus tard, on est en droit de se dire qu'on fait un bilan, d'autant qu'on voit qu'il y a des évolutions au niveau international, au niveau européen, qui poussent quand même à se poser des questions. Depuis 5 ans, il n'y a jamais eu aussi peu de flux migratoires vers l'Europe. Et pourtant, depuis 5 ans, il n'y a jamais eu autant de demandes d'asile en France. Comment est-ce qu'on explique cela? Comment est-ce qu'on y répond? Pour moi, ça mérite qu'il y ait un débat.
Françoise Fressoz,
en fait, le débat, il est piégé pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a l'ombre, évidemment, du Rassemblement national. Marine Le Pen en a fait son thème de bataille. Et à chaque fois que des politiques ont mis le dossier sur la table, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Fillon, et même dans une certaine mesure à la fin de son quinquennat François Hollande, on a vu qu'au fond ça profite à la présidente du Rassemblement National. C'est piégé aussi parce qu'on sent bien qu'à gauche, il y a au fond une grande question sur l'accueil. C'est-à-dire, est-ce que durcir les lois sur l'immigration, est-ce que c'est pas remettre fondamentalement en cause le droit d'accueillir l'autre qui est en difficulté? Et au fond, on voit bien, notamment sur les lois Collomb, qu'il y a eu un débat à gauche assez fort. Et donc là, le risque, au fond, il est double. C'est à la fois de faire un peu éclater la majorité et de donner du carburant à Marine Le Pen. Donc comment est-ce que vous évitez ces deux écueils? Comment vous arrivez à faire un débat serein?
Mais Gabriel Attal.
Moi, en parlant d'efficacité et d'humanité, on voit que le débat il s'est beaucoup polarisé ces dernières années autour d'une idée où finalement la gauche considérait que le seul sujet c'était la solidarité, même si dans les faits on peut pas dire que les personnes étaient particulièrement mieux accueillies. C'est-à-dire des personnes qui étaient dans la rue, qui étaient dans des situations sanitaires terribles, il y en avait déjà beaucoup. Et puis la droite considérait que le seul sujet c'était de parler d'autorité. Et on n'a pas vu spécialement d'efficacité autour de leur ligne ces dernières années, puisqu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc le sujet c'est de pas laisser ce sujet réservé, entre guillemets, au Rassemblement National. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas parler d'immigration et qu'on ne puisse pas agir. Le sujet, c'est de regarder les choses en face et dire il n'y a pas besoin de slogan, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes paroles, des grandes phrases qui, derrière, ne sont pas suivies d'effets. L'objectif, c'est d'être efficace.
Mais on peut se souvenir de l'hommage que le candidat Emmanuel Macron rendait à Angela Merkel pendant sa campagne présidentielle. Il rendait hommage à la chancelière allemande et à sa politique d'accueil des migrants.
À sa politique d'accueil des réfugiés, et nous on accueille des réfugiés.
Mais là, elle était plus dans l'humanité que dans l'efficacité.
Mais on est dans les deux. Ça. Mais pour être dans l'humanité, il faut être dans l'efficacité.
Alors, justement, pour être dans l'efficacité, vous avez dit tout à l'heure que ça avait augmenté en France, plus 7%. Quelles sont concrètement les pistes? Est-ce qu'on en revient finalement à l'analyse de Nathalie Loiseau qui avait dit qu'un certain nombre de personnes faisaient un shopping de l'asile? Est-ce que la France est trop attirante? Et on a entendu parler également d'un débat sur l'AME, à savoir l'aide médicale d'État. Est-ce qu'en gros, on doit réformer l'aide médicale d'État? Ça serait une pompe aspirante. Si c'est pas ça, est-ce que c'est la CMU, la couverture maladie universelle, qui permettrait à un certain nombre de personnes d'être tentées par la France parce que bien soignées? Et quelles sont les populations visées? Emmanuel Macron a parlé des Albanais, des Géorgiens, en disant en gros, ils peuvent très bien être chez eux. Il n'y a aucune raison qu'ils viennent chez nous. C'est quoi les quelques pistes qui rendraient la France moins attirante?
Alors,
selon vous.
Gabriel Attal.
Pour vous.
On fait un débat dans une semaine, un peu plus. Et j'entends des gens nous dire ça sert à rien de faire un débat, etc. Si là, je vous disais, voilà ce qu'on va faire et voilà quelles sont très concrètement nos pistes
concrètes. Mais c'est pas nous qui avons mis les pistes
sur
la table.
Oui, mais on dirait que le débat ne sert à rien.
Non.
Précisément,
je vous ai bien parlé de pistes. Je n'ai pas dit les solutions toutes faites. Vous avez déjà une liste de trucs qui vont être mis en place. Je vous dis simplement, est-ce que, parce que vous êtes quand même censé travailler, et il y a même un rapport qui est en train d'être fait sur ce genre de choses.
Absolument.
Mais vous avez quand même probablement une petite idée des choses et des faits qui rendent la France plus attirante. Autrement, Emmanuel Macron n'aurait pas parlé des Géorgiens, des Albanais. Voilà, on n'entendrait pas parler de l'AME avec Mme Buzyn qui dit qu'il faut la maintenir, M. Cesarini, député, qui dit qu'il faut la maintenir, et d'autres députés qui disent qu'il faut regarder.
Alors, la première question, je l'ai dite, c'est de regarder le bilan de notre loi asile-immigration. Ça fait plus d'un an qu'elle a été votée. Il y avait un objectif de mieux intégrer. Il y avait un objectif de répondre plus rapidement aux demandeurs d'asile en statuant en 6 mois sur leur demande. On en est au bout d'un an. Est-ce qu'on a beaucoup baissé puisque c'était 13 mois auparavant ou pas? Ensuite, il y avait l'objectif de mieux reconduire à la frontière les personnes qui étaient déboutées. Parce que c'est bon pour personne d'avoir des personnes qui sont déboutées.
Ce qui est très tôt fait.
Et qui sont laissées. On va faire ce bilan-là. Cette année, je crois que les reconduites
Valérie
ont augmenté
Pécresse
de 20%.
Le fait aujourd'hui, Gabriel Attal, dans le journal du dimanche. Et voilà ce qu'elle dit. La loi dont vous parlez a été une loi pour rien. Rien n'a changé. Ça n'est que la manifestation de l'impuissance du gouvernement. Et elle accuse le président de la République d'être dans un double langage, voire un double jeu concernant ce sujet.
Oui, écoutez, enfin, Valérie Pécresse, on voit bien qu'il y a une espèce de primaire à droite entre ceux qui ont quitté les Républicains, entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, qu'il y a une espèce de concours de slogans, de prise de position. Chacun essaye d'être le plus fort.
Bah, faut dire que vous l'avez lancé le concours aussi, que d'une certaine manière.
Elle parle de choc d'autorité. Enfin, précisément, on est là encore dans les espèces de slogans. Moi, je l'appelle déjà un choc de modestie parce que elle a participé à beaucoup de gouvernements. On peut pas dire que les choses aujourd'hui aient profondément changé. L'objectif, c'est pas de dire autorité ou solidarité, c'est de dire d'être efficace.
Il faut augmenter le nombre de reconduites à la frontière.
Mais c'est, alors, donc, c'est précisément notre objectif. Notre objectif, c'est que ceux qui sont déboutés du droit d'asile soient
60%, hein,
soient,
c'est ça,
soient reconduits.
Ça fait 2 ans et demi que vous êtes
Ça fait un an qu'on a voté une loi. Les reconduites, a priori, ont augmenté de 20% cette année. On va faire le bilan et on va voir si effectivement la loi a été suivie des faits. Donc, réponds à Nathalie Saint-Cric, objectif, regardez les effets et l'application de cette loi. Parce que sinon, ça sert à rien de voter des lois si derrière, on regarde pas comment elles sont mises en œuvre et si on n'adapte pas pour que ça soit efficace. Alors là, franchement, on crée du débat.
Je pense
certains
que tout le monde serait d'accord avec vous.
Sont pas contents. Voilà. Premier point. Ensuite, effectivement, il y a la question que vous avez relevée, de savoir comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui, la France est le pays le plus attractif au moment où les flux en Europe n'ont jamais été aussi bas depuis 5 ans. Je veux dire, les demandes d'asile, elles ont baissé, je crois, de 19% en Allemagne l'an dernier, elles ont augmenté de 23% en France. Mmh. Comment on l'explique ? Ça justifie quand même qu'on regarde. Donc ça va être le deuxième point. Et puis après, il y a les questions que vous évoquez, les questions de l'AME. Moi, je le dis de manière
L'aide
très claire.
L'aide médicale d'État, par exemple, et pour que tout le monde sache de quoi on parle, c'est ce qui permet aux étrangers en situation irrégulière d'être soignés gratuitement. Le candidat Emmanuel Macron, là encore, avait promis de ne pas y toucher pendant sa campagne présidentielle.
Alors, le candidat Emmanuel Macron, il a promis de jamais remettre en cause l'aide médicale d'État, et je peux vous dire, heureusement, sinon, je suis pas sûr que je me serais engagé derrière lui.
C'est une ligne
c'est une ligne rouge pour vous.
Mais c'est pas une question, encore une fois, c'est pas une question de symbole, c'est pas une question de ligne rouge symbolique.
Non, mais je parle de symbole. Si on change le panier de soins ou si on modifie les choses, mais est-ce que c'est pour vous quelque chose d'intouchable?
Pour moi, je vais vous dire, la ligne rouge, c'est que quelqu'un qui est en France, quel que soit son statut, quelle que soit son origine, quelle que soit sa nationalité, s'il a un accident, s'il est gravement malade, on le soigne. On le soigne parce que c'est juste un enjeu d'humanité, en fait. On ne laisse pas quelqu'un crever au milieu de la rue. Et c'est aussi un enjeu de sécurité sanitaire pour les Français, d'ailleurs. C'est pour ça que les médecins rappellent régulièrement qu'ils soutiennent l'aide médicale d'État, parce que y a des pathologies qui ont disparu en France qui pourraient renaître si on ne soignait pas les personnes qui sont sur notre sol. Donc pour ces raisons-là, évidemment qu'il faut la maintenir. Maintenant, le sujet qui a été posé, c'est celui de savoir s'il y a des abus. Et là, moi, je vais le dire de manière très claire, il faut regarder, il y a un rapport qui est en cours d'élaboration qui sera remis d'ici à la fin du mois, il faut regarder de manière très concrète et très dépassionnée politiquement ce qui se passe. Parce que vouloir maintenir l'AME, c'est pas vouloir dire on regarde absolument aucun sujet d'effet de bord ou potentiellement d'abus, parce que
mais la couverture maladie universelle est également visée dans le rapport, il n'y a pas que l'AME.
Mais alors,
on regarde tout ce qui peut être...
On regarde, parce que si on laisse prospérer l'idée qu'il y a des abus, je veux dire, et c'est pas nous qui l'avons inventé. Il y a des journaux qui ont fait des articles, il y a des journaux qui ont mis en avant des cas. Si on laisse cette idée-là prospérer, qu'on donne le sentiment qu'on n'y répond pas, je suis pas sûr que les Français soient pour les abus, et même les Français qui sont attachés à l'AME. Si on laisse ça prospérer, à la fin, c'est l'AME dans son ensemble qui sera remis en cause, et moi, pour moi, il en est hors de question. Donc, pour préserver cet outil, il faut regarder tous les sujets.
Vous n'avez pas complètement répondu à Françoise Fressoz. Est-ce qu'il y a un risque de division dans la majorité et dans le gouvernement sur cette question de l'immigration?
Il y aura des débats, forcément, dans la majorité. On le voit, on l'a vu au moment de la loi asile. Et moi, je vais vous dire, c'est sain et c'est normal.
Non, mais la question, c'est, est-ce que vous êtes prêt à perdre une partie de votre majorité pour faire avancer
Vous savez, on nous a dit au moment de la loi asile immigration, vous allez perdre une partie de votre majorité. On n'a pas perdu une partie de notre majorité. Il y a eu du débat, il y a des députés qui se sont abstenus sur la loi. On peut pas, une semaine, nous dire, votre majorité, c'est une espèce d'armée des clones qui suivent le gouvernement sans regarder ce qu'ils font. Et de l'autre côté, quand il y a du débat, nous dire, attendez, c'est pas normal, vous êtes en train de perdre votre majorité. C'est normal qu'il y ait du débat, qu'on discute.
Non, mais il y a une quinzaine de députés de la majorité qui sont déjà partis du groupe. Si jamais on continue, il n'en manque plus que 11 et vous n'avez plus la majorité absolue au sein de l'Assemblée. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque-là, en fait? C'est ça la question.
Déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait une quinzaine de députés. En plus, il y a plein de situations qui sont différentes. On pourrait revenir sur chacune d'entre elles, etc. Il y aura du débat. Moi, évidemment, je souhaite qu'on garde une majorité unie et je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver parce qu'encore une fois, on n'agite pas des totems ou des slogans. On veut juste être efficace parce qu'on s'est donné des objectifs. Et il faut que les lois qui ont été votées, elles soient appliquées et qu'on soit efficace.
Indépendamment du débat sur l'immigration, est-ce que finalement vous n'êtes pas à côté de la plaque? Quand Emmanuel Macron parle d'insécurité culturelle, ce n'est pas des sujets forcément d'immigration, ce sont des sujets d'intégration. Ça, ce côté-là, on n'a pas l'impression que vous le développiez. Premier point. Deuxièmement, Xavier Bertrand, l'autre soir dans l'émission de France 2, a proposé l'interdiction des listes communautaristes en considérant que c'était un facteur de fracture de la société. Quel est votre sentiment sur ce sujet? Est-ce qu'on passe à côté du vrai débat intégration? C'est-à-dire de jeunes gens, de jeunes femmes, de gens qui sont français et qui simplement, comme l'étude de Jérôme Fourquet, ne sont pas forcément totalement favorables à être intégrés. Et deuxièmement, petite question juste sur les listes communautaristes.
Alors, sur la première question, évidemment qu'on se préoccupe aussi de ce sujet, et heureusement. Oui, c'est vrai qu'on constate dans certains territoires qu'il peut y avoir des risques de communautarisme, qu'on a des remontées qui existent. On n'a pas attendu aujourd'hui pour agir. On a, le Parlement a voté une loi il y a maintenant quelques mois, c'était l'an dernier, pour encadrer l'ouverture des écoles hors contrat. Parce qu'on sait qu'il y a des écoles hors contrat confessionnelles qui peuvent avoir des pratiques totalement inacceptables dans la République, qui peuvent faire passer un certain nombre d'idées auprès d'enfants totalement inacceptables. Et donc, on contrôle mieux leur ouverture et on les contrôle mieux. Il y a une loi qui a été votée, qui était d'ailleurs à l'initiative des sénateurs, c'était Madame Gatel qui l'avait portée. Donc oui, on agit sur ce sujet-là. Sur la deuxième question que vous avez abordée, moi évidemment que ça me préoccupe. Et moi, évidemment, que je souhaite qu'on regarde. Maintenant, il faut voir ce qu'il est possible de faire.
Parce qu'on dit... regarde, c'est-à-dire ce que vous êtes pour ou contre. Parce qu'on regarde, on peut regarder.
Si la question qui est posée, c'est de savoir si je suis pour qu'il y ait dans la République des listes communautaires, c'est-à-dire du communautarisme politique aux élections.
Les démocrates chrétiens, par
évidemment,
exemple.
Évidemment non. Mais précisément. Après, voilà, c'est ça. On arrive sur ce sujet-là.
Je me demande de quoi vous parlez, puisque vous ne dites pas les choses clairement.
Mais c'est pas moi.
C'est Nathalie, ni vous, Gabriel.
Non. Je vais vous dire, j'ai été interrogé par Nathalie sur une proposition qui a été faite. Effectivement, par Xavier Bertrand, d'accord, qui visait a priori le communautarisme
islamiste. Imagine qu'il ne parlait pas des
islamistes.
Voilà. Mais donc, une fois qu'on dit ça, il faut dire ce qu'on considère comme communautaire. Voilà.
On peut trouver un synonyme musulman.
Non, mais voilà. Et puis,
autant dire les choses clairement. Enfin, en
c'était
l'occurrence,
pas musulman dans la
c'est précisément ça qui était visé. Mais ce que je veux dire, ce que j'ai pas pu dire à Xavier Bertrand pendant le débat, et j'aurais aimé, c'est qu'à ce moment-là, il faut dire concrètement comment ça s'applique, y compris à d'autres formations politiques. Qui sont peut-être pas musulmans, mais qui se revendiquent d'autres religions.
Alors, il y a aussi un autre débat qui a été ouvert cette rentrée politique. Le projet de loi bioéthique sera examiné à l'Assemblée à partir de mardi. Cet été, vous avez, et ce n'est plus un secret, dit publiquement que vous étiez un enfant, l'un des premiers en France à avoir été conçu par PMA. D'un point de vue personnel, d'un point de vue politique, est-ce que vous comprenez la manière dont se profile ce débat, Gabriel Attal?
Moi, d'abord, je suis très satisfait de la manière dont il se profile. J'ai suivi les débats à l'Assemblée nationale dans la commission. J'ai essayé le soir en me connectant pour regarder un peu les choses. Voilà, ça se fait de manière dépassionnée, sans hystériser. Et je trouve que toutes les formations politiques ont eu cette attitude-là, en tout cas dans la commission. Y compris celles qui sont d'ailleurs plutôt... traditionnellement, parce qu'aujourd'hui c'est plus très clair, opposé à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Donc ça, moi, je suis satisfait de ça.
Ça préjuge absolument pas du débat public.
J'allais y venir, ça ne préjuge pas des semaines qui viennent, et donc je souhaite et j'espère qu'on va garder ce climat-là, parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin d'hystériser sur ces sujets-là. La PMA, si on prend cet exemple-là, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'il y a eu des engagements qui ont été pris sur ce sujet. Qu'elle existe pour les couples hétérosexuels, je suis bien placé pour le savoir puisque j'en suis issu, mais qu'elle existe y compris avec pour des couples de femmes qui la pratiquent à l'étranger. Et globalement que les Français sont prêts. Bon, c'est le sentiment que j'ai, là encore, quand je discute avec
les Français. Les Français sont prêts. Mais vous avez vu, par exemple, l'Académie de médecine, ces derniers jours, émettre des réserves à propos de l'ouverture, justement, de la PMA à toutes les femmes. Concevoir un enfant délibérément privé de père, je cite l'Académie de médecine, pourrait avoir des conséquences sur son épanouissement. Qu'est-ce que vous pensez de ce regard, de ces réserves sur la PMA ouverte aux femmes?
Écoutez, moi je pense qu'il faut, déjà il faut entendre tous les regards. Alors moi je ne vais pas considérer qu'il y en a qui sont disqualifiés par définition parce qu'ils ne vont pas dans le sens qu'on souhaiterait. C'est-à-dire, tout le monde a le droit d'exprimer, et l'Académie de médecine en particulier a une légitimité pour s'exprimer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le Comité Consultatif National d'Éthique, le CCNE, qui s'est exprimé à plusieurs reprises depuis 5 ans sur ce sujet, qu'il y a des débats qui ont été organisés. Et moi, ma conviction, c'est que ça serait méconnaître la situation d'énormément d'enfants qui sont aujourd'hui élevés par des femmes seules. Voilà. Alors évidemment que on peut considérer que ça serait mieux si ces enfants avaient deux parents. Mais en l'occurrence, il y a beaucoup d'enfants en France qui sont élevés dans des familles monoparentales. On peut pas considérer que ça soit des enfants gâchés. Je veux dire, voilà.
Mais là, ce sont des quelques fois ce qui est dit notamment par un certain nombre de pédopsychiatres, c'est que dans les familles monoparentales, c'est subi. C'est-à-dire que la vie fait que les familles qui n'étaient pas monoparentales au début le deviennent. Alors que là, ça va être créé et que notamment ça pose un problème avec l'effacement de la figure de l'homme, du père. C'est-à-dire qu'on
crée, notamment dans le cas de PMA pour des femmes qui sont seules, on crée une famille qui est avec une seule représentation, qui est féminine.
Si on parle et qu'on retient cet argument de l'effacement de la figure de l'homme, à ce moment-là, on est aussi contre la PMA pour les couples de femmes. Et moi, c'est pas mon cas. Pour moi, ce débat, il a été encore une fois un peu tranché dans la société. On voit bien qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont la possibilité d'avoir des repères masculins, féminins dans leur entourage, dans l'entourage de leurs parents, et que encore une fois, il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi dans des familles homoparentales ou dans des familles monoparentales, et que finalement les choses se font parce qu'on est dans cette société-là.
Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à dire publiquement que vous avez été conçu par PMA? C'était une dimension politique que vous vouliez faire transmettre ou...
Non, en fait, j'étais interrogé sur le sujet, l'été d'avant encore. Ouais. parce que moi, il y a certains discours qui m'ont heurté. J'ai entendu certains discours remonter en disant finalement cette idée de la PMA, c'est considérer il faut que la science permette de faire ce que la nature ne permet pas de faire. Et c'est donner une forme de droit à l'enfant. Et finalement, si on donne un droit à l'enfant à des parents qui ne peuvent pas naturellement avoir d'enfants, c'est l'envie des parents qui passe avant celle de l'intérêt de l'enfant. Et en gros, ça sera des enfants moins bien élevés que les autres parce que c'est pas cette question-là qui doit primer. Et si on retient cet argument, on peut l'étendre y compris à toutes les PMA et à la PMA qui existe aujourd'hui. Et donc, je me suis senti assez concerné. Moi, je suis issu d'une PMA, c'est la science qui m'a permis d'être là. J'ai pas le sentiment d'avoir été moins aimé par mes parents que les autres et je me considère avoir été très bien élevé.
Vous allez Karine même plus loin parce qu'en avril dernier, vous avez évoqué votre désir d'enfant. En passant par une GPA éthique. Il n'en est pas du tout question dans le texte qui sera présenté et débattu à partir de la semaine prochaine à l'Assemblée. Est-ce que vous regrettez effectivement qu'il ne soit pas du tout question de GPA éthique dans ce texte ?
Alors là encore, j'ai été interrogé dans le cadre d'un portrait qui m'était consacré. La question qui m'a été posée, c'est est-ce que si à très long terme la GPA était légale en France, est-ce que vous poseriez la question d'y avoir recours ? J'ai répondu, si à très long terme elle était légale, je me poserais la question, et notamment si c'était éthique.
Mais ça veut dire quoi ? Juste faut préciser pour les auditeurs éthiques.
Mais je vais vous dire, moi je suis très clair sur ce sujet-là, c'est pour ça que la question que vous me posez, est-ce que je regrette ? Pas du tout, puisque pour moi c'était très clair dès le départ. Emmanuel Macron, il s'est engagé dans la campagne présidentielle avec l'engagement d'ouvrir la PMA à toutes les femmes et l'engagement de ne pas ouvrir la GPA qui restera interdite en France. Et je me suis engagé auprès de lui en connaissance de cause et donc pour moi il faut être très clair sur ce sujet-là parce que sinon on agite un peu des peurs et on donne du carburant à ceux qui veulent essayer d'instiller le doute. Il n'y a pas de doute à avoir sur ce sujet. La GPA, elle restera interdite, c'est l'engagement du président de la République.
Philosophiquement, même si c'est un engagement d'Emmanuel Macron, on ne voit pas au nom de quoi la GPA serait interdite. Vous allez me parler de la marchandisation des corps. Enlevons le côté « on paye ». C'est-à-dire, s'il y a une femme qui veut prêter son ventre pour une grossesse, on ne voit pas au nom de quoi, si un couple d'hommes a envie d'avoir un enfant, on considérerait que la GPA, il n'y a aucune raison. Puisque la PMA, on oppose un raisonnement pour la PMA, on peut très bien l'opposer pour la GPA.
Non, c'est différent.
Pourquoi c'est différent ? Pourquoi les femmes pourraient, les hommes ne pourraient pas ?
Déjà, ce qui est différent, c'est que, je parle dans le débat, c'est que pour les femmes, on parle de leur corps à elles, de savoir si elles veulent faire une PMA avec leur corps, ce qui est pour moi assez important. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est une pratique qui existe déjà aujourd'hui pour d'autres femmes quand elles sont en couple hétérosexuel. Et que la question, c'est de l'étendre finalement aux femmes dans toute leur situation.
Oui, mais qu'elles soient seules.
Franchement, je suis pas d'accord avec ce raisonnement. Je pense que on peut pas lier la PMA et la GPA, qui a un engagement sur le fait que la GPA restera interdite. Et que pour moi,
il y a quand même une forme d'hypocrisie d'accorder aux femmes le droit d'en passer par une PMA et de ne pas accorder aux hommes d'en passer par la GPA.
Je crois pas, parce que pour moi, c'est pas du tout le même sujet pour les raisons que je viens d'évoquer.
Encore une question, Françoise Fressoz, et on change de sujet.
Il y a une réalité qui est souvent évoquée, c'est qu'au fond, il y a des pratiques au sein de l'Europe qui font qu'une femme française qui a envie de faire une PMA, même si elle est seule, elle allait à l'étranger. Ça existe aussi pour la GPA. Donc, au nom de quoi vous diriez pas un jour, finalement, puisque c'est possible à l'étranger, on va s'aligner sur le droit européen. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Parce que c'est une des grandes craintes des opposants.
Rapidement, Gabriel Attal.
D'abord, oui, il y a des familles qui vont le faire à l'étranger aujourd'hui. Des familles hétérosexuelles comme homosexuelles.
Ceux qui ont les moyens.
Voilà.
En clair.
On agit puisqu'il y a tout un travail qui est porté par Jean-Yves Le Drian, par Marlène Schiappa, pour lutter contre les filières de GPA à l'étranger, notamment celles qui relèvent d'un quasi-esclavage de femmes dans certains pays. Donc ça, c'est de manière très claire. Ensuite, la question qui est posée, c'est une fois que ces GPA ont lieu à l'étranger, que des enfants qui sont nés de GPA arrivent en France, Est-ce qu'on considère que c'est des enfants fantômes et qu'il ne faut pas leur donner d'état civil ou pas? Et la réponse est non, évidemment. Et c'est pour ça qu'il y avait un engagement du président de la République sur ce sujet aussi, via l'adoption, qu'on puisse reconnaître leur état civil.
Au moins un point commun entre tous les enfants, quelle que soit la manière dont ils ont été conçus.
Je vois la transition.
Oui, la transition. Non, pas les retraites.
Ah,
le service national universel dont vous êtes responsable, Gabriel Attal, avant d'arriver à la retraite, ils passeront tous sous les couleurs du drapeau. Ils apprendront à chanter la Marseillaise. Vous avez un bilan d'étape de ce service national universel que vous avez expérimenté maintenant il y a quelques mois?
Oui, surtout que...
La première phase qui a démarré le 16 juin.
Elle a démarré le 16 juin et elle est toujours en cours. Puisque je rappelle que la phase qui sera obligatoire du service national, un mois, c'est 2 fois 15 jours. Il y a d'abord les 15 jours qui ont eu lieu en juin de cohésion, où les jeunes sont dans une autre région que la leur, avec des jeunes qui viennent d'autres régions que la leur, encadrés par des personnes issues du monde associatif, des armées, de l'éducation nationale, avec un certain nombre de modules sur lesquels on pourra revenir. Et puis une deuxième phase qui est pour moi extrêmement importante. Et je regrette qu'on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui dans les médias, et je suis ravi que vous m'en donniez l'opportunité, c'est la mission d'intérêt général. Où en gros, les jeunes vont se rendre utiles aux autres, dans des associations, chez les pompiers, à la Croix-Rouge, dans les banques populaires, il y a plein d'exemples. Et les jeunes sont en train de réaliser ces missions d'intérêt général. Et je recevais un courrier cette semaine, je pense que je vais le publier parce qu'il m'a beaucoup ému, d'une mère de famille qui me disait « Je ne reconnais pas mon fils ». Il m'avait jamais parlé d'association, de s'engager, etc. Là, il se retrouve à s'engager dans une association parce que il fait son service national universel. Il est transformé et il me parle déjà de s'engager
mais attendez,
plus longuement et plus
durablement. Parce que c'est des volontaires qui participent à l'expérience.
Évidemment,
donc ils avaient déjà envie d'y aller. Quand même.
Évidemment que c'est des
2000 volontaires.
Et je veux dire, c'est déjà positif de voir que ça fonctionne avec eux. On a fait un test.
Enfin, vous citez un cas sur 2000 pour le coup. Ah bah, je ne sais pas si c'est un vrai bilan.
J'ai plein de cas. Et on a des cas de jeunes, par exemple, qui étaient décrocheurs scolaires. Parce que, qui avaient quitté l'école pour phobie scolaire ou pour des actes de délinquance, etc., qui ont fait leur SNU en juin, qui ont repris l'école cette année. On a des exemples, parce qu'il y a eu un effet d'entraînement avec d'autres jeunes, un effet de modèle, et que ça a fonctionné.
Et donc, il est urgent de le rendre obligatoire.
Et on a fait une étude, et on a sondé, entre guillemets, les jeunes, c'est un institut de recherche indépendant, l'INJEP, avec des chercheurs, des sociologues qui les ont sondés à l'issue de la phase pilote. 94% des jeunes ont dit que c'était positif, qu'ils étaient satisfaits du SNU. Alors, vous allez me dire, c'était des volontaires.
Oui,
mais par définition, quand un jeune est volontaire, il a plus de chances d'être déçu que quand il n'est pas volontaire. Donc le fait qu'on ait s'ils sont allés au SNU, c'est qu'ils avaient une haute attente.
Est-ce
de
qu'il y a des petits ajustements
avoir.
À faire ou pas, par rapport à ce que vous aviez fixé ou pas?
Oui, je pense qu'il y aura des ajustements.
Par exemple, sur quoi?
Dans cette étude, par exemple, on voit que je crois 78% des jeunes disent que les journées étaient très dense, voire trop dense et fatigante.
Voilà. Mais ça, c'est la jeunesse, Gabriel Attal.
Non, mais il y a un juste milieu à trouver.
Moi,
je leur ai beaucoup parlé. J'ai fait mon SNU en juin, puisque j'ai fait quasiment tous les centres et pendant 2 semaines, je dormais dans les centres.
Mais vous êtes un cas exceptionnel. Vous êtes engagé en politique à 16 ans.
Ce que je veux dire, c'est que je discutais avec eux et en gros, ce qu'ils me disaient, c'est oui, c'est vrai que c'est un peu fatigant. En même temps, ils disaient, on n'est pas là pour se reposer et on a envie de vivre des choses.
Le reproche qui était fait au SNU par certains, à savoir qu'il y aurait une atmosphère trop autoritaire, trop militaire. Dans ce service civique, après quelques mois d'expérimentation, qu'est-ce que vous répondez à l'objection?
Moi, je réponds que je ne confonds pas militarisme et patriotisme. Et que le drapeau, la Marseillaise, ça n'a jamais été réservé aux militaires.
Non, mais l'obéissance.
Il suffit d'aller dans un stade de foot.
Ce que disait Alice,
c'est
sur la liberté, un peu le fait qu'on les laisse pas trop faire ce qu'ils veulent.
C'est sûr qu'il y a un cadre et il y a des règles. Mais moi, je pense que c'est nécessaire dans une société. Je pense que c'est aussi ce que viennent chercher un certain nombre de jeunes. Au fond, moi, ce que j'ai retiré de cette expérience en discutant avec eux, c'est qu'il y avait une recherche de rite de passage. Finalement, des jeunes qui exprimaient le besoin d'avoir un rite de passage, un moment qui peut même être une forme d'épreuve, mais qui leur donne le sentiment qu'ils passent dans un temps plus adulte et qu'ils vivent cette expérience-là avec d'autres jeunes. Évidemment, c'est une phase pilote et on va continuer à la faire monter en puissance.
Là, vous voulez le rendre obligatoire,
oui.
À partir de l'année prochaine, avec 40 000 appelés, et puis de plus en plus jusqu'à 2022. Comment vous faites pour le rendre obligatoire? Parce que si j'ai bien compris, il faut réformer la Constitution. Or, c'est pas exactement prévu à l'ordre du jour immédiat. Donc comment est-ce que vous réussissez à réviser la Constitution avant la fin de l'année pour pouvoir faire des appelés l'année prochaine?
Alors, Gabriel Attal. Déjà, vous avez raison de poser ces questions parce qu'il faut être très clair sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de parents moi, qui me posent la question, d'ailleurs, qui me demandent si leur enfant va être concerné. Moi, j'ai dit dès le départ, l'an prochain, ça ne sera pas obligatoire. L'an prochain, on reste sur une phase de volonté volontariat, je l'avais déjà annoncé, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Effectivement, avec entre 30 000 et 40 000 jeunes, on est en train de regarder en termes d'hébergement ce qu'on peut organiser. Tous les départements, quasi, lanceront le SNU l'an prochain, donc il y aura entre 200 et 300 volontaires dans chacun de ces départements qui feront leur SNU. Ensuite, il va y avoir une montée en puissance pendant plusieurs années. Et ça sera obligatoire à un certain moment.
Quand ? Mais c'est quand le certain moment ? C'est après les élections présidentielles ?
Je ne peux pas vous l'annoncer aujourd'hui, puisqu'on y travaille.
Oh bah non !
Il y aura des arbitrages du président, du Premier ministre, dans les semaines et les mois qui viennent.
C'est vous qui portez le projet.
La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'avant que je porte le projet, c'est-à-dire avant que je sois nommé au gouvernement, il était prévu que ça soit généralisé obligatoire en 2026.
Oui.
Et que le président de la République a dit de manière très claire, en sortant du grand débat national dans sa conférence de presse, puisqu'il a abordé le SNU comme matrice de la société de l'engagement qu'il veut construire, il a dit qu'il souhaitait qu'on aille beaucoup plus vite. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ça sera
et
beaucoup plus tôt que 2026.
Sur son iPhone, sur l'application qui permet de fliquer les ministres.
Je confirme que le SNU fait partie des items.
Dernière question à ce propos, les dortoirs, pas question qu'ils soient mixtes, toujours pas.
Enfin,
pas de dortoir mixte, non.
Enfin, on en avait déjà parlé. 68,
mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Non, mais il y a eu la phase pilote, mais vous avez raison de poser la question, parce que c'est des questions que les parents me posent. Les parents, bien sûr, ils me disent où va dormir mon enfant. C'est des dortoirs qui sont évidemment non mixtes, séparés filles et garçons. Je rappelle qu'il y a un très haut niveau d'encadrement puisqu'on est à un encadrant pour 5 jeunes, ce qui est quand même beaucoup.
Et vous autorisez le cannabis, bien sûr, à partir de l'année prochaine, c'est ça.
Pas d'autorisation de substances illicites, évidemment.
Cette émission est en train de dévier totalement.
Mais non, absolument pas, ce sont de vraies questions et ce sont
des questions très concrètes. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des parents, je vais vous donner une petite anecdote. Avant la phase pilote, moi j'avais voulu qu'il y ait une réunion d'information pour les parents dans chacun des 13 départements où on lançait le SNU. Je me suis dit, c'est normal que les parents ils se posent plein de questions, qu'il y ait une réunion d'information, ils peuvent venir avec leurs enfants poser des questions avant le SNU. On avait prévu des salles, il y avait environ 150 jeunes volontaires dans chaque département. Donc on avait prévu des salles pour 300-400 personnes, en gros deux parents par enfant. À chaque fois, on a été submergé par plusieurs centaines, il y avait quasiment 1000 personnes qui venaient à chaque fois. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils venaient avec leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins. C'était une espèce d'aventure qui fédérait dans les familles, d'avoir dans la famille le petit jeune qui va faire son service. Et ça, je trouve que c'est une très belle image aussi.
Nathalie Saint-Cricq.
Sur les municipales, puisque vous avez le droit de rester ministre longtemps et de choisir au dernier moment si vous êtes candidat, est-ce que vous avez fait votre choix personnel ?
Oui, moi je l'ai dit, je suis élu local déjà avant et j'entends le rester. Donc je serai candidat à ma réélection, entre guillemets, sur la liste à Vanves, aux prochaines élections municipales. Je ne serai pas tête de liste, mais je serai candidat sur la liste.
Donc vous serez un élu au gouvernement, c'est ça votre souhait ? Rester au gouvernement
oui, bien
tout
sûr.
En étant un élu.
Je le suis déjà. Aujourd'hui, je suis conseiller municipal et membre du gouvernement. Conseiller municipal, on ne peut pas dire que ça empêche d'être membre du gouvernement. Il y a un conseil municipal par mois environ, une soirée. Et puis, bon, il y a des manifestations auxquelles on se rend, mais c'est totalement compatible. Et surtout, ça permet aussi de garder un lien important.
Il y a une règle qui n'a pas été fixée. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut rester, on peut être tête de liste. Mais si on est élu maire, ben on quitte le gouvernement. Mais si on est battu, est-ce qu'on doit quitter le gouvernement ? Ça n'a jamais été précisé au moment par Édouard Philippe.
Bah écoutez, il faut poser la question au Premier ministre, au Président.
Vous avez peut-être un avis personnel.
Moi, je n'ai pas d'avis personnel, c'est à eux de le déterminer.
D'accord. Vous avez lu le dernier livre d'Alain Finkielkraut à Gabriel Attal ?
Non.
Il était sur France Inter vendredi matin et il disait « La jeunesse est un naufrage, donc il faut s'en sortir parce que c'est un moment de très grande malléabilité et de très grand conformisme. » Fermez les guillemets. Il a raison ? La jeunesse est un naufrage.
Non, mais quand j'entends dire la jeunesse est un naufrage de la part de quelqu'un qui a eu dans sa jeunesse, je crois quand même un certain nombre d'engagements, c'est pas à cette phrase-là que ça me fait penser. Plutôt à un autre type de naufrage.
Même si c'est un naufrage, moi je préférerais revenir il y a 30 ans, mais je pense que c'est pas politiquement correct de dire ça.
Moi je vais vous dire, je trouve que la période en ce moment, elle est absolument formidable pour la jeunesse. Parce qu'on n'arrête pas d'expliquer que les jeunes, ils sont individualistes, ils sont désintéressés du monde. Il y a cette caricature, je disais tout à l'heure, du jeune, voilà, qui boit son yaourt à boire devant son jeu vidéo toute la journée chez lui et qui s'intéresse pas à ce qui se passe dans le monde. Bah c'est pas vrai. On voit des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes qui se bougent pour le climat, qui signe des pétitions, qui s'engage dans des associations. Le service national, c'est aussi une démonstration de ça. Moi, je trouve ça absolument formidable parce que ça fait mentir tous les clichés qui existent. Et on a une jeunesse qui est préoccupée par ce qui se passe.
Comment faites-vous pour ne pas décevoir cette jeunesse ?
C'est très dur, absolument. Et il faut être à la hauteur de tout ça. Moi, je ne suis pas plus particulièrement en charge de la jeunesse. On parlait tout à l'heure, on n'a pas pu aller plus dans le détail, mais la question de la jeunesse rurale. Moi, je travaille beaucoup sur la mobilité des jeunes. Comment est-ce qu'on fait pour que des jeunes qui vivent dans des territoires où il y a moins d'opportunités qu'ailleurs, ils aient plus de possibilités de bouger, d'aller voir ce qui se passe, de se former, quitte à mieux revenir, mais en tout cas d'avoir cette mobilité, d'élargir leur champ des possibles. Et ça, pour moi, c'est le vrai enjeu pour le quinquennat d'Emmanuel Macron s'agissant de la jeunesse, c'est d'élargir le champ de ses possibles. Et c'est ce sur quoi je travaille.
Merci Gabriel Attal d'avoir été notre invité. Bon dimanche, l'émission se termine. Merci à toutes les trois, Alexandre Gilardi, et merci à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.